À l'île des Pins, Virginie Ruffnac et Laura Vendée-Goux prises à partie violemment par un groupe d'individus alors que les deux élus de la province sud venaient soutenir plusieurs structures cougnées. Elles ont dû quitter l'île sous protection des gendarmes. Génération NC fait sale comble à Nouméa lors d'un meeting organisé pour conclure la tournée de réunion publique du parti de Nicolas Metzdorf. L'avant-dernier jour du salon Saveurs et Traditions, ça se passe à la Maison des Artisans, route de Nouville. Déjà plus de 5000 gourmands qui ont fait le déplacement. C'est le dernier jour pour la pêche au picot avant une période d'interdiction jusqu'au 31 janvier pour protéger la ressource. L'actualité nationale, aura-t-on un Premier ministre avant la fin du week-end? Près de 50 jours que le gouvernement Attal est désormais démissionnaire. Le sport, les Jeux Paralympiques, les Calédoniens entrent en piste ce soir et des jeunes lycéens de Pointe-Boute vont également assister aux épreuves à Paris. Le football, suite de la troisième journée de Ligue 1 et les Nantais d'Antoine Comboiré qui joueront à Montpellier demain matin. Du foot aussi en Calédonie avec la suite du trophée du Grand Nouméa qui continue ce samedi. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Je vous le disais en titre, Virginie Ruffnac et Laura Vendée-Goux ont été prises à partie à l'île des Pins ce matin. Les élus de la province sud étaient en déplacement aujourd'hui avec plusieurs missions pour venir en aide à la population cougnée lorsqu'elles ont été victimes d'une agression extrêmement violente de la part d'individus cagoulés. Virginie Ruffnac nous raconte.
Nous nous rendions avec Laura Vendée-Goux, également conseillère municipal du Dépin, en plus d'être élu de la province sud, au chevet de la population d'île des Pins, notamment pour la sacristie de l'église de Vaux qui a été complètement incendiée. Et effectivement, il y a une partie patrimoine provincial et pour voir comment nous pouvions finalement permettre aux croyants d'île des Pins de continuer à faire leurs offices dans leur église, qui est importante pour eux. Et puis par ailleurs, nous avions une rencontre avec les acteurs touristiques de l'île qui aujourd'hui sont au point mort en termes d'activité. Et donc c'était un déplacement province-sud pour aller au chevet de cette population. Nous avons été pourchassés, agressés verbalement, on nous a demandé de quitter les lieux, notre véhicule a été caillassé, les gendarmes et les officiers de sécurité ont dû nous protéger. Nous sommes rendus sur le site de l'IGESA où les acteurs touristiques nous attendaient. Et là, à nouveau, des pick-up avec des jeunes cagoulés nous ont pourchassés et nous ont fait partir. Les gendarmes ont dû riposter car manifestement, il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés. Donc en fait, les élus de la province sud sont désormais persona non grata sur l'île des Pins. C'est une catastrophe puisque la province s'occupe de l'ensemble des habitants de son territoire et la présidente de la province est attentive à ceux qui ont souffert dans le cadre de la crise que nous avons vécue. Aujourd'hui, finalement, nous sommes en incapacité d'exercer notre mission, qui est une mission de proximité avec les populations, parce que certains jeunes en ont décidé ainsi et qu'ils sont laissés libres d'agir à l'île des Pins et donc chassent les élus qui s'y rendent.
Des faits graves et que déplorent les deux élus de la province sud, ayant par ailleurs toujours eu des liens particuliers avec l'île des Pins.
Laura Vendée-Goux est la fille de l'ancien grand chef qui jamais d'ailleurs n'aurait laissé une telle situation se tenir à l'île des Pins. Hilarion Vendée-Goux, lorsqu'il était grand chef et maire de l'île des Pins, a protégé à la fois ses sujets mais aussi les élus qui pouvaient s'y rendre. Et quelle que soit leur tendance politique, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était attentif à permettre à l'ensemble des élus de se rendre à l'île des Pins. C'était aussi de l'émotion parce qu'effectivement, Laura, bien sûr, est native de l'île des Pins, c'est son île. Pour ma part, j'ai des liens très forts avec cette île de la province sud, puisque les liens avec Hilarion Vendée-Goux, qui était membre de notre mouvement, étaient très forts. Je connais bien les familles de l'île des Pins, avec lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Nous avions encore des réunions familiales avant les émeutes, il y a quelques mois de cela, lors de deuil, ou à l'occasion desquelles j'ai pu partager l'intimité des familles. Et tout cela est très dur, car finalement, ces liens d'affection sont mis à mal par cette partie de la population qui souhaite la destruction, qui souhaite le rejet, qui ne souhaite pas que nous construisions ensemble. C'est triste, surtout pour la population de l'île des Pins qui est prise en otage de cette situation. Nous avons aujourd'hui cette île qui est le joyau touristique de la province sud, qui est repliée sur lui-même, qui a une identité très singulière et particulière, une histoire particulière aussi, et qui finalement est prise en otage. Cela rend très difficile la situation pour l'ensemble de la population, et nous le déplorons, et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons quitté l'île des Pins, et avec beaucoup d'émotion ce matin.
Voilà pour ce témoignage de Virginie Ruffnac. Plusieurs messages de soutien ont été adressés à Virginie Ruffnac et Laura Vendée-Goux. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, avec des gendarmes également pris à partie ce matin face à un groupe d'individus violents. Une nuit quelque peu agitée également à Nouméa. Les pompiers sont intervenus pour éteindre des feux de poubelle à Caméré, Ducos et Magentatour en fin de soirée, Léana Colombo.
Et oui, Magentatour, où des barrages ont été reconstitués en réponse à une intervention des forces de l'ordre hier matin. Les CRS étaient sur place. On notera également la remise à feu de la salle Anéoui à la Vallée du Tir ce matin à 7h30, puis une nouvelle fois à 11h30. Ces deux fois, l'incendie est parti des vestiaires. Les pompiers sont également intervenus à Montravel à 14h pour un incendie volontaire qui s'est propagé jusqu'à la tour OPT. Le vent a compliqué les opérations des pompiers qui ont finalement réussi à maîtriser le feu. 2 hectares sont partis en fumée. Et puis, la police a effectué hier soir des contrôles routiers dans 4 secteurs de Nouméa. 14 personnes ont été contrôlées en état d'ivresse. De nouveaux contrôles sont prévus ce soir.
Au chapitre politique, une salle qui affichait complet ce matin au Méridien de Nouméa pour le meeting de Génération NC. Le parti de Nicolas Metzdorf tenait un meeting à l'hôtel Le Méridien. De nombreux militants et sympathisants ont fait le déplacement, autant que des personnes qui souhaitaient entendre l'analyse de la situation politique, économique, sociale et institutionnelle du député de la première circonscription et président de Génération NC, Nicolas Metzdorf. Écoutez ces quelques témoignages à la sortie du meeting.
Ça nous a beaucoup... ému et on était contents.
Très intéressant. Bien expliquer la politique d'aujourd'hui, comment elle a changé et tout. Ben, moi, c'est positif, je suis contente.
C'est très intéressant, surtout. Moi, j'ai vu un peu surtout les avis et d'un côté, c'est nous l'avenir. Du coup, on a beaucoup s'informer pour ça.
Content de cette participation. Et puis, félicitations à Génération qui fait beaucoup de choses pour nous, Calédoniens, qui en ce moment, on est dans un état de dépression. J'espère pour la suite avoir des bonnes nouvelles et surtout un espoir.
Très intéressant. On repart avec plein d'espoir.
C'est intéressant d'avoir une vision politique à long terme, parce que finalement, c'est ça qu'on vient un peu chercher, parce que là, on vit un peu à court terme, et donc on a du mal à se projeter dans l'avenir.
Surtout après ce qui s'est passé, on a besoin de savoir la suite, et avec tous les... Ça rassure un peu, parce qu'on était en plein dans le doute. Ça redonne un petit peu confiance.
Un meeting de Génération NC qui s'est notamment déroulé en présence de représentants des Républicains calédoniens, tandis que Gilles Brial, président du MPC, s'est exprimé dans un discours pour rappeler l'importance de retrouver l'unité des non-indépendantistes.
Génération a une gentillesse de nous inviter, c'est un mouvement allié, et c'est important pour moi de rappeler aujourd'hui que les Calédoniens attendent de nous finalement la reconstruction quasiment d'un seul mouvement non-indépendantiste et que nos divisions favorisent le développement des indépendantistes et qu'aujourd'hui, plus que jamais, mais il faut être unis, il faut être capable de porter, construire ensemble un projet de société. C'est les quelques mots que je voulais dire ici.
Ce travail d'unité, il a été demandé à maintes et maintes reprises. Aujourd'hui, il est en bonne voie, vous avez le sentiment?
Alors, il est plus que jamais nécessaire. Et s'il n'est pas mis en place, ce sera la fin de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il est en bonne voie. Il y a encore du travail, mais l'objectif, c'est d'avancer et on avance.
Et Nicolas Metzdorf s'est chargé de conclure les discours. Il a dressé plusieurs constats, parfois avec humour, mais sans détour face à la gravité de la situation qui touche la Calédonie et dans le même temps sur les perspectives qui permettent de rester optimiste, à commencer par l'analyse de la situation politique, alors que c'est la stratégie de l'UC qui a mené le territoire au stade où il en est aujourd'hui. Nicolas Metzdorf.
L'Union calédonienne a une stratégie très simple, faire fuir les Calédoniens, les terroriser pour obtenir l'indépendance par la force. Donc ça, on le dénonce. Et ça nous permet aussi d'expliquer pourquoi on souhaite travailler avec des indépendantistes modérés, démocrates, comme l'UNIPALICA. Nous, on constate aujourd'hui que la division du FLNKS se fait sur une politique de fond et qu'il y a ceux qui terrorisent et ceux qui essaient de construire. Donc je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas avec ceux qui veulent construire et pourquoi on ne combattrait pas ceux qui veulent détruire.
L'absence de l'État, ça aussi, ça a été soumis dans le discours.
Oui, parce que est-ce que l'État aurait accepté que ce qu'il s'est passé ici se passe en métropole? Est-ce qu'il aurait agi aussi tardivement avec les forces de l'ordre? Est-ce qu'on aurait toujours une ville de 15 000 habitants bloquée par plusieurs dizaines d'individus? Est-ce qu'on aurait aussi peu d'aide alors que c'est la responsabilité de l'État? Je ne crois pas. Donc j'ai osé dire qu'on était traités comme des Français de seconde zone. Donc je l'assume, hein, je l'ai dit dans les médias nationaux, je le redis ici. Je crois que la France n'aurait jamais accepté que les Français de métropole vivent ce que nous avons vécu ici.
Les militants parfois mécontents, mais l'unité avant tout de la famille non-indépendantiste, désormais c'est une évidence.
Ben, on n'a pas le choix. On constate les résultats des législatives où on est 10 000 voix derrière. Aujourd'hui, si on n'a pas tout le monde dans le bateau, on n'a pas suffisamment de boue pour gagner. Donc il faut ramener tout le monde. Ça fait partie de notre responsabilité. C'est toujours un petit peu énervant pour les militants qui croient en un parti politique. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs partis politiques qui feront la victoire et pas qu'un seul.
Nicolas Metzdorf qui a ensuite eu l'occasion d'échanger librement avec l'ensemble des participants à ce meeting. L'éveil océanien s'exprime aujourd'hui par voie de communiqué sur l'élection de Velma Falayo à la présidence du Congrès. Je cite, un vote de circonstance traduirait la volonté de faire émerger une majorité de la reconstruction. Cette majorité n'existe pas et doit être bâtie, écrit l'éveil océanien. Politique toujours, le 43e congrès du FLNKS s'est ouvert hier soir à la tribune de Pagou à Koumak en l'absence du Palika et de l'UPM. C'est Alosio Sacco, le président du RDO, qui a prononcé le discours d'ouverture au nom de l'animation du bureau politique. Il a appelé à l'unité du FLNKS en souhaitant une réforme de la gouvernance et en appelant à la tolérance parce que, selon lui, les différentes stratégies sont complémentaires, mais seule l'action unie et rassemble, a-t-il affirmé.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
Dans le reste de l'actualité, le salon Saveurs et Traditions se poursuit à la Maison des Artisans, route de Nouville, le rendez-vous incontournable des curieux et des gourmands amateurs de produits locaux, Léana Colombo.
Et oui, des allées remplies d'odeurs alléchantes, des produits colorés à base de fruits typiquement calédoniens et la traditionnelle charcuterie. Pas de doute, nous sommes bien au salon Saveurs et Traditions. Et pour cette 6e édition un peu spéciale, pas moins de 5000 curieux ont fait le déplacement depuis jeudi pour découvrir de nouveaux produits ou acheter leurs incontournables. Et là, chacun a sa préférence.
Moi, je suis plutôt côté charcuterie, je regarde.
Et j'ai acheté... C'est comment, Figatello ?
C'est très bon avec un bon vin.
Est-ce que vous avez acheté d'autres choses ?
Oh, ben, du saucisson de cerf, peut-être demain du miel.
C'est pas mal, il y a un bon choix. On a acheté un petit peu de charcuterie, du saucisson et puis un peu de viande salée. On a l'habitude de venir et puis à chaque fois, on vient faire un petit peu de provision. Ça fait du bien, surtout en ce moment, on a besoin de ça. Puis ça donne un peu de baume au cœur à tous les artisans.
Zantillé avait fini de vendre. Donc demain, je viendrai demain matin.
Une euphorie partagée par les exposants également. Véronique travaille à Nouméa Gourmet et participe à son premier salon.
J'ai intégré la société il y a très peu de temps. L'occasion est là pour y être et mettre en valeur nos produits faits maison et puis notre savoir-faire. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Hein, vous avez saveurs et traditions avec des saveurs gourmandes pour les gourmands et les gourmets. Pour savoir se faire plaisir, il ne faut pas hésiter.
Et justement, qu'est-ce que vous conseillez aux gourmands ?
Je vais commencer par un très bon foie gras maison avec des parfums différents. Figues, sauterne, piment d'Espelette ou encore quatre épices. Et puis, pour ceux qui préfèrent, le nature. Ça nous ravit parce que beaucoup de Calédoniens sont venus vers nous pour nous poser des questions, savoir nos produits, comment on s'organise pour la fabrication. Et vraiment, les clients sont vraiment ravis de ce salon et il faut continuer.
Et ce ne sont pas moins de 40 stands qui sont présents à la Maison des Artisans de Nouville. Notez que le salon refermera ses portes demain à 14h.
Le rendez-vous de ce samedi matin à Païta, c'était le marché solidaire en lieu et place du marché municipal. Et vous y étiez, Léo Fichou.
Oui, des fruits et légumes, des œufs, des produits frais, mais aussi locaux remplissaient une bonne partie des étals du marché. Certains stands proposaient également des produits artisanaux. Malia Coletti expose et vend des taovala, mais aussi des ceintures et des colliers traditionnels. Et le Wallisien. De l'autre côté du marché, quelques allées plus loin, Audrey, gérante de la société familiale Aspara, propose, elle, des créations en bois ou sur cuir fabriquées à la main. Elle nous a présenté ses produits et son stand.
Alors, on fait des porte-clés sur bois, on fait des supports d'iPad sur bois et des tableaux décoration. Ce sont ce qu'on appelle des multicouches, donc plusieurs couches de bois qui sont travaillées, dessinées, encollées, peintes. Ça décore, donc on fait des mandalas et puis des tableaux décoratifs abstraits, minimalistes. Et puis on fait également des logos sur cuir qu'on imprime, qu'on dessine et qu'on met sur des casquettes et des bonnets.
Le marché solidaire de Païta est organisé en partenariat avec le Kiwanis Tiare Païta, le Saint-Vincent-de-Paul et l'Arsapa.
La pêche, la vente, l'exposition à la vente et l'achat des picots interdits à partir de demain, 1er septembre, et ce jusqu'au 31 janvier. Les huîtres de roche et de palétuvier sont aussi concernées à partir de demain, mais cette fois jusqu'au 30 avril. Une réglementation destinée à protéger ces espèces. Les précisions de Tiffen Reed, adjointe au chef du service de prévention à la province sud.
Cette réglementation, elle n'est pas faite pour embêter les gens, bien sûr, hein,
c'est pas notre objectif. C'est une période qui est importante pour permettre la reproduction de ces individus et pour pouvoir en profiter, bien sûr, à la réouverture et pour les générations futures. Il peut y avoir des amendes hein, qui sont mises pour les gens qui ne respectent pas cette réglementation. C'est un délit qui est passible d'une amende de 2 684 000 francs et de la confiscation du matériel de pêche. C'est pour ça que c'est très important de rappeler la réglementation à tout le monde, puisque l'objectif, bien sûr, il n'est pas de mettre des amendes, mais de faire en sorte que tout le monde comprenne bien cette réglementation et participe à la protection de notre environnement. La réglementation qui s'applique pour les picots et les huîtres, qui elles aussi ferment à partir du 1er septembre, s'appliquent autant pour les pêcheurs professionnels que pour les plaisanciers. Il y a une autre interdiction qui commence le 1er septembre, donc il y a une mesure qui est un petit peu moins bien connue des usagers, mais on a la réserve du grand port de Prony qui ferme également, qui est une réserve intégrale saisonnière à partir du 1er septembre.
La pêche au picot interdite donc à partir du 1er septembre et jusqu'au 31 janvier. La réglementation s'applique aussi aux huîtres de roche et de palétuvier à partir du 1er septembre, mais cette fois jusqu'au 30 avril, des interdictions qui s'appliquent également en province nord. Enfin, une information pratique, le prix des carburants, il augmente pour le mois de septembre. Dès demain, les usagers constateront une hausse de quelques centimes pour le diesel et de quelques francs pour le sans-plomb. Le sans-plomb sera affiché dès demain dans les stations-service à 169,60 francs le litre, soit une hausse de plus 2,60 francs par rapport au mois dernier. Le gazole sera quant à lui affiché à 150,10 francs le litre, soit une augmentation de 0,60 francs. Il est 18h passé de 2 minutes, une page de publicité dans ce journal et on voit l'actualité nationale et dans le monde.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bon d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Michael Gineski.
L'actualité nationale, aura-t-on un Premier ministre avant la fin du week-end ? Près de 50 jours que le gouvernement Attal est démissionnaire et l'Élysée promet désormais d'aller vite. Un nom revient avec insistance ces dernières heures, celui de Bernard Cazeneuve. Décryptage avec Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.
Sur le papier, le chef de l'État n'est pas contraint par un délai. Il peut décider quand il veut de nommer un Premier ministre. Ensuite, plus le temps passe et plus son capital politique s'abîme, d'autant plus que les urgences sont nombreuses, alors que la France est sous la double menace de pression budgétaire de Bruxelles et d'une nouvelle dégradation des agences de notation, Emmanuel Macron doit impérativement créer les conditions pour l'adoption d'un budget. Autre urgence, le pouvoir d'achat. Aucun projet de loi ne peut être adopté avec un gouvernement démissionnaire. La justice des mineurs aussi. Des sanctions plus fermes ont été promises avant l'été par le gouvernement de Gabriel Attal. La pression de l'opinion publique est très forte. Bref, face aux multiples crises que traverse la France, le président est conscient que le statu quo n'est plus possible. Aujourd'hui, la balle est dans son camp. L'Élysée évoque la nomination d'un Premier ministre demain. Espérons ensuite la formation d'un gouvernement avant Noël.
Louis de Ragnel pour Europe 1. De son côté, Nicolas Sarkozy appelle sa famille politique à assumer la responsabilité de gouverner. Dans un entretien au Figaro, l'ancien président de la République invite les Républicains à œuvrer pour, je cite, « faire nommer un Premier ministre de droite », option rejetée pour l'instant par les dirigeants des LR qui refusent toute coalition gouvernementale. L'actualité en métropole toujours avec ce drame à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Une petite fille de 7 ans est toujours hospitalisée entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. Ce dernier remontait une file de voitures en équilibre sur une roue arrière. Un comportement irresponsable sur la route qui n'est pas rare selon les habitants du quartier sous le choc.
Tout le monde est bouleversé. La petite fille, on la connaît bien. Nous, on est de la résidence, donc on la voyait à la piscine. C'est une famille très sympathique, très gentille.
Ici, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et nous, les résidents, nous attendons vraiment que la mairie agisse, qu'il y ait des ralentisseurs, que ce soit les attitudes des usagers qui deviennent vraiment irresponsables, mais aussi le secteur. La mairie devrait mettre en place des mesures pour éviter ce genre de drame.
Il y a beaucoup de gens qui aiment la moto ici. Il y en a beaucoup qui font des roues arrière, qui aiment jouer avec leur moto. Après, sur cet axe, c'est un peu débile de faire ça, vu que c'est assez fréquenté. C'est des jeunes qui n'ont pas vraiment la conscience des dangers qu'ils représentent. On craint plus trop les forces de l'ordre pour certains.
Un drame qui intervient au même moment qu'un accident survenu cette fois à Nanterre après un rodéo urbain qui a tourné donc au drame. Un homme roulant à motocross a perdu le contrôle de son engin avant de percuter une femme qui se trouvait sur un banc. Elle a été très grièvement blessée. Le conducteur est toujours en fuite. L'actualité à l'international avec ce contrat entre le constructeur français Dassault Aviation et la Serbie. 12 avions Rafale ont été commandés par Belgrade pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Le président de la République Emmanuel Macron était en Serbie pour la signature de ce contrat. En Ukraine maintenant, le conflit dure depuis maintenant 2 ans et demi. Une guerre marquée notamment par l'entrée des nouvelles technologies, drones, missiles supersoniques. Et pourtant, côté russe, c'est un vétéran des années 50 qui permet de frapper le plus durement Kiev, le bombardier géant Tupolev 95. Reportage de Nicolas Tonev d'Europe 1.
Le bruit des hélices, elles sont 8 accrochées aux 4 moteurs de ce dinosaure désert. Elles trahissent ses 70 ans, mais avec plus de 50 mètres d'envergure, conçues lors de la guerre froide pour bombarder à coups de bombes atomiques. Le papy costaud, appelé ours par l'OTAN, s'est découvert une vocation de porteur de missiles. Une alliance avec des armes de longue portée qui font de lui un ennemi redoutable, dont parlent même les télés ukrainiennes.
Pourquoi est-il si dangereux?
L'avion peut lancer ses missiles sans s'approcher de la ligne de front, ce qui fait qu'il est compliqué à abattre. Et il largue en plus des missiles très rapides, difficiles à détecter et à détruire.
Depuis l'invasion de février 2022, la cinquantaine de Tupolev 95 en service bombarde quasiment chaque jour l'Ukraine et aucun de ses appareils n'a pu être abattu.
Nicolas Tonev pour Europe 1. 18h passé de 8 minutes, une page de publicité avant de voir l'actualité sportive.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse rrb@rrb.nc. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, les Jeux Paralympiques de Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On ouvre cette page spéciale Jeux Paralympiques 2024 et... enfin, Léo Fichou, les Calédoniens qui entrent dans la compétition cette nuit.
Et oui, ils sont 3 Calédoniens, on le rappelle, hein, Vitolio Cavacava, Félicien Siapo et Pierre Fairbank. Le premier à rentrer dans la compétition, ce sera à 4h dans la nuit. Vitolio Cavacava participera au lancer du javelot. Quelques minutes plus tard, à 4h20, Félicien Siapo sera lui au départ de la demi-finale du 100 mètres. Et puis, demain soir, à 21h53 précise, Pierre Fairbank s'élancera sur la demi-finale du 400 mètres fauteuil. avant, pourquoi pas, de participer à la finale. Dans la nuit qui suit, ce sera de dimanche à lundi.
Et parmi les spectateurs et supporters, les Calédoniens pourront compter sur le soutien de 16 élèves du lycée de Pointe-Bout.
Les élèves de première inscrits en option éducation physique, pratique et culture sportive se sont envolés hier pour la métropole. Ils sont d'ailleurs arrivés aujourd'hui et vont passer une dizaine de jours sur Paris pour assister aux Jeux, mais aussi pour visiter la ville. Un programme chargé et varié les attend. On écoute Christophe Bretagne, directeur du lycée Michel Rocard de Pointe-Bout. Il nous détaille ce programme.
Ils vont déjà profiter de visiter un peu Paris quand même. Donc ils visitent le Club France, la Cité des Sciences. Ensuite, ils assistent à des matchs de basket-fauteuil, de boxe. Ils font aussi tout ce qui est para-équitation au château de Versailles. Donc ça leur permettra de visiter en plus des lieux plutôt sympathiques sur Paris. Ensuite, ils rencontrent des athlètes au ministère des Outre-mer. Ils vont encore d'autres représentations. Ils font de la boccia, donc qui existe uniquement pour le para-olympique.
Les élèves du lycée Michel Rocard de Pointe-Bout préparent ce voyage depuis plusieurs mois déjà. Les précisions de Christophe Bretagne.
Il y a eu une vraie préparation avec une association locale qui est chargée de la promotion du handicap. Et ils ont fait pas mal d'activités sportives en situation de handicap. Bah, c'est toujours difficile d'imaginer ce que ça représente comme difficulté et de nécessité d'adaptation. Et donc, ils ont fait pas mal d'épreuves chez nous, hein, sur nos terrains, mais avec des équipements spécifiques de façon à voir ce que c'était. Et que c'était pas facile de faire du sport quand on a un handicap.
Un voyage financé par le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie qui récompense le projet Ma Classe aux Jeux Paralympiques porté par le lycée Michel Rocard de Pointe-Bout.
Allez, les Jeux Paralympiques, toujours, on le rappelle, hein, Léo Fichou, la délégation tricolore a terminé la deuxième journée avec 6 nouvelles médailles.
Et oui, 6 médailles, dont une en or, celle d'Alexandre Léoté, en paracyclisme sur piste, le Français qui a survolé sa finale de poursuite individuelle. De l'argent aussi au tir à la carabine à 10 mètres pour Tanguy de la Forêt qui a décroché sa toute première médaille paralympique alors qu'il participe à ses 6e Jeux. De l'argent aussi pour Hector Denayer en paranatation sur le 100 mètres brasse et pour Jelika Diallo en para taekwondo. Et enfin, 2 médailles de bronze décrochées la nuit dernière par des Français en tennis de table pour Fabien Lamiraud et Julien Michaud et également pour Alex Portal en paranatation sur le 100 mètres d'eau. C'est sa 2e médaille à Paris après l'argent sur le 100 mètres brasse hier.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le jingle qui est parti plus vite que prévu, on vous laisse terminer.
Oui, on allait parler
dédié aux Jeux Paralympiques.
Parler du classement des médailles, la délégation française qui est 7e avec 9 médailles, 2 en or, 5 en argent et 2 en bronze. C'est toujours la Chine qui est en tête avec ses 25 médailles, dont 12 titres devant la Grande-Bretagne et le Brésil qui est 4e.
On voit le reste de l'actu sport sur la scène nationale et internationale, cette fois du football avec la 3e journée de Ligue 1. Et Léo, l'Olympique Lyonnais qui a ouvert le bal de manière spectaculaire ce matin.
Les Lyonnais menaient 1-0 puis 3-1 par Strasbourg se sont finalement imposés 4-3. Une première victoire cette saison qui les replace provisoirement à la 11e place du classement de Ligue 1. La nuit prochaine, à 2h, heure de Nouméa, duel de bas de tableau entre Brest et Saint-Etienne. À 4h, les Nantais d'Antoine Comboiré se déplacent sur la pelouse de Montpellier. Et puis enfin, à 6h, Toulouse recevra l'Olympique de Marseille.
Un beau choc dans le rugby championship. Les nations de l'hémisphère sud, les All Blacks qui seront sur le terrain des Springboks sud-africains. Coup d'envoi à 2h du matin pour nous la nuit prochaine. Du tennis, et cette surprise à l'US Open, l'élimination de Novak Djokovic, le tenant du titre battu dans le 3e tour par l'Australien Alexei Popirin, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Du cyclisme, le Tour d'Espagne place ce soir la 14e étape alors que Primoz Roglic fait tout pour reprendre le maillot rouge. Il ne compte plus qu'une minute 21 secondes de retard sur le leader, l'Australien Ben O'Connor. Et puis les sports mécaniques en MotoGP, le rendez-vous du week-end, c'est en Espagne, le Grand Prix d'Aragon, meilleur temps des essais libres de Marc Marquez. Côté français, Juan Zarco, pour la première fois de la saison, s'est qualifié directement pour la Q2 en terminant à la 8e place. Fabio Quartararo a terminé, lui, à la 20e place. Qualification et sprint race, ça suit ce soir. Le Grand Prix demain soir dès 23h.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les sports mécaniques toujours avec le Grand Prix de Monza en vue ce week-end. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des essais libres. Pendant ce temps, dans les paddocks, une manifestation pacifique, celle des salariés de l'écurie Alpine, actuellement dans la tourmente. Ils ont fait part de leur mécontentement face à la fin programmée du site de construction des moteurs des monoplaces de l'écurie française. Christopher Filoc d'Europe 1.
Si l'annonce n'est pas encore officielle, elle pourrait tomber d'ici peu. 50 ans de sport automobile, d'innovation française s'apprête à s'arrêter. Le site de Viry-Châtillon conçoit ses propres moteurs de Formule 1 depuis 47 ans. Renault, c'est 169 victoires en Formule 1, 11 titres pilote, 12 titres constructeur. Un séisme donc pour la marque française, mais aussi pour l'ensemble du sport automobile, à l'image de Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie Ferrari, au micro de Canal+.
J'ai découvert la F1 avec Renault et Arnoux. Mon premier projet professionnel, ça a été avec Renault, sur le moteur F3 en 92. Après, j'ai été mon premier titre de champion de France F3, ça a été avec Renault. J'ai commencé la F1 avec Renault et je connais les gens à Viry. C'est un très bon groupe de personnes, d'ingénieurs, de passionnés de la course et je suis avant tout triste pour eux.
Alpine Renault n'a accroché aucune victoire en Formule 1 depuis 2021, mais au-delà de l'absence de réussite sportive, c'est surtout un problème financier pour la marque. Il faut dire qu'acheter un moteur coûte bien moins cher qu'investir en interne. L'écurie française pourrait alors devenir cliente de Mercedes.
Christopher Filoc d'Europe 1, qualification pour ce Grand Prix d'Italie à suivre ce soir. La course demain soir à partir de minuit.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, le sport côté calédonien à présent et on termine avec du tennis. Cette bonne nouvelle pour Maxime Chazal. Il récupère son titre de champion de France, Léo Fichaud.
Et il a remporté ce week-end effectivement le tableau deuxième série homme à Blois. Le calédonien est venu à bout en 3-7 de Charles Rossiol. Une victoire 6-2, 4-6, 6-4 après 2015, 2018 et 2022. C'est donc la quatrième fois de sa carrière que Maxime Chazal remporte le titre de champion de France de deuxième série.
Et puis du football sur le territoire. Deux matchs du trophée du Grand Nouméa se jouaient cet après-midi.
Et oui, c'est déjà la deuxième journée de la nouvelle compétition qui rassemble 9 équipes de Super League et de PH. À 14h, Tigasport a battu Dumbé à 4-1. Et en ce moment, ça joue encore entre Horizon Sport et l'AS Wetch. Le score est d'un but partout. Les rencontres se jouent au Parc des Sports de Cuccio. Et la deuxième journée se terminera mardi soir avec à 18h, Melec contre Gaïcha. Et à 18h45, l'AS Magenta face à l'AS Lossi.
Et pour finir, un grand rendez-vous ce dimanche, hein, la reprise des trails avec le Yala Trail, ça se passera au Yala Ranch de Dumbéa. Premier départ à 7h45, trois distances proposées. Évidemment, après une longue interruption des courses en pleine nature, cet événement est organisé en partenariat avec Radio Rythme Bleu. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. 18h passées de 17 minutes, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien on commence ce bulletin avec pas de vigilance particulière. Pour cette nuit tout d'abord, le ciel sera bien étoilé sur l'ouest. Ailleurs, quelques nuages circuleront au Loyauté et sur l'est, ils pourront donner quelques gouttes quand même. Le vent d'est-sud-est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds, localement proche des 15 nœuds sur la pointe nord et Belep. Sur la côte ouest, elle restera déventée ce soir et les températures minimales descendront entre 12 et 16 degrés dans l'intérieur et elles s'échelonneront de 17 à 21 degrés ailleurs. Demain matin, maintenant, le soleil dominera sur l'ouest. Des nuages défileront sur les autres régions, avec de petites averses possibles sur la façade est. Maintien d'une brise dépassant rarement les 10 nœuds sur l'ouest. Ailleurs, le vent de secteur est oscillera entre 10 et 15 nœuds, et localement 15 à 20 nœuds vers Belep et la pointe nord-est.
Merci beaucoup Maxime pour la météo et la technique.